eh bien, nous nous retrouvons pour Bienvenue en Europe. Et eh bien, bienvenue, ça veut dire que à la fois nous sommes pro-européens, mais ça vous le saviez déjà, mais aussi qu'il se trouve qu'en France, eh bien, l'idée européenne a avancé. Alors ça, c'est véritablement le, j'oserais presque dire, le miracle de cette élection présidentielle. Mais ça veut dire aussi qu'on parle davantage de l'Europe, qu'on ne l'accable pas systématiquement de tout ce qui va mal. Et on voit aujourd'hui des hommes politiques échanger, notamment du président Macron et Madame Merkel, la chancelière allemande. Mais aussi, on perçoit que, ne serait-ce que dans la distribution des postes gouvernementaux, il y a une préoccupation européenne qui est évidente. C'est une bonne nouvelle, non ?
Oui, Raymond, vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect des choses. L'Europe peut être regardée de manière positive et pas uniquement négative, comme c'était le cas, malheureusement, pendant trop longtemps. Et l'Europe peut représenter un espoir. Et elle devrait toujours représenter un espoir. Alors certes, il y a des choses qui ne marchent pas toujours comme on le souhaiterait. Certes, l'intégration actuelle de l'Union européenne est loin d'être achevée. Et c'est une histoire sur le long terme, de toute façon, que l'on vit. Mais déjà, si l'on regarde par rapport au temps passé, il y a maintenant près de plus de 60 ans que tout ceci est mis en place, même plus que 60 ans, puisque si on prend le traité du charbon et l'acier, qui était un très très grand espoir de renaissance de l'Europe à travers un domaine très particulier, qui était limité dans le temps, mais si l'on regarde tout ce qui s'est passé depuis, eh bien c'est quand même assez extraordinaire. Donc il faut quand même regarder la dimension positive et surtout se tourner vers l'avenir pour justement l'appréhender de façon volontaire et se dire ce qui ne marche pas, on doit et se faire tout pour que ce soit amélioré et c'est ainsi que l'on peut aller de l'avant. Et ensuite toujours rappeler que c'est l'union de nos différents pays dans la scène internationale, et Dieu sait si l'on est dans le mondialisme, comme on l'entend souvent, eh bien, c'est évidemment, si tous nos pays arrivent à parvenir à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets vraiment importants, eh bien, nous aurons beaucoup plus de chances que si l'on avance en ordre dispersé. C'est pourquoi l'Union fait la force, comme on le dit souvent, mais c'est une vérité. Mais évidemment, il ne faut pas se cacher qu'il y a des difficultés parce que ce n'est pas facile de se mettre d'accord avec tout le monde autour d'une table. Et c'est bien pour cela que c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est aussi, rappelons-le, un cas unique dans l'histoire du monde que des pays qui se sont fait si longtemps la guerre. Alors je sais bien qu'on dit la guerre, tout ça, c'est du passé, etc. Non. On est dans un monde qui est aussi dangereux qu'autrefois. Le monde n'a pas changé pour autant. En revanche, c'est l'Europe qui a changé et notre approche de ces questions-là sur le plan international peut être tout à fait différente par rapport au passé. Et justement, c'est cette dimension positive qu'il faut à nouveau rappeler.
Alors, il y a cette dimension positive, mais il y a aussi, disons, eh bien, dans le gouvernement actuel, peut-être un gouvernement de transition, puisqu'il faut attendre les prochaines législatives pour que les choses se stabilisent, on voit quand même une Europe de la défense qui arrive à pas feutrer, puisque Mme Goulard, ministre des armées, on voit Mme de Sarnez qui... dans les affaires étrangères, s'occupe plus précisément de l'Europe, et elle-même était députée européenne. On voit M. Macron lui-même, qui est quand même favorable à l'Europe. Donc il y a quand même là des signes qui me paraissent importants. Et puis on voit aussi qu'il y a eu des rencontres avec Mme Merkel, avec la Commission européenne. Donc je veux dire qu'il y a quand même des signes positifs, et des gens, ce ne sont pas simplement « on inaugure les chrysanthèmes ensemble », mais il semble que on est bien décidé à mettre sur la table la lutte contre le dumping social et fiscal, le fait des travailleurs détachés. Bon, ben, il semble normal qu'à travail égal dans un pays, les gens qui soient du pays ou extérieurs soient payés de la même façon, mais il y a peut-être aussi à harmoniser des fiscalités ou des charges sociales.
Oui, depuis très longtemps.
Et c'est sur la table.
Et c'est sur la table. Et depuis très longtemps, justement, on n'avait pas mis sur la table les sujets importants, y compris les sujets qui fâchent, parce qu'il y a des divergences, il faut bien le reconnaître, d'approche entre certains pays. Et comme toujours, ben, pour que les choses puissent avancer, il faut parvenir à des accords. Alors, ce n'est pas toujours évident de comprendre, notamment si je me place au niveau des auditeurs qui écoutent traditionnellement les médias où on souligne tout ce qui ne va pas et que l'on croit que s'il y a une décision qui est prise au niveau français, ben, tout doit suivre. L'Europe, ce n'est pas uniquement la France, c'est 27 pays, en tout cas 28 encore avec la Grande-Bretagne. On pourra peut-être en toucher un mot tout à l'heure, la situation avec le retrait qui est programmé du Royaume-Uni. Mais donc à 27, eh bien, il faut essayer de parvenir à des compromis pour avancer. Ensuite, il y a la zone euro, et là, évidemment, il y a beaucoup moins de monde autour de la table, et c'est peut-être plus facile, parce que l'euro est quand même un point central, et qui est d'ailleurs extraordinaire comme réussite au départ. Alors on dit, oui, mais on attendait beaucoup plus de prospérité, il y a eu la crise économique, etc., etc.
Mais on la ressent moins que s'il n'y avait eu que des
francs d'élire. Si on était exactement... Dans quelle situation serions-nous ? Alors, pour la première fois depuis longtemps, on a mis des sujets sur la table. On le sent bien au niveau de ce qui se passe de la Commission européenne, qui est l'organe chargé de faire des propositions au nom de tous, qui ensuite sont discutées par les États directement au niveau du Conseil européen et du Conseil des ministres, et puis du Parlement européen parallèlement. Et cela faisait longtemps, effectivement, qu'on se disait « bon, il y a des propositions, mais bon... » Or, il se trouve que la Commission européenne sent que les choses sont en train d'être modifiées. Elle a présenté le 24 mai une des propositions sur la défense européenne pour essayer d'avancer dans ce domaine. Elle a également présenté le 31 mai des propositions en ce qui concerne l'union économique et monétaire, et en particulier pour la zone euro. Parallèlement, vous l'avez souligné, avec le nouveau gouvernement français mis en place par le nouveau président français, il y a eu des rencontres au niveau européen, en particulier avec l'Allemagne. Et là aussi, pour la première fois, on se rend compte qu'il y a des perspectives de pouvoir parvenir à tracer une route ensemble. Alors, il y aura des étapes, il faudra bien identifier les domaines qui sont possibles d'améliorer, sachant que, on l'a souvent souligné dans d'autres émissions de Bienvenue en Europe, que reste derrière le problème qui est quand même un problème assez prioritaire, c'est comment faire pour que, au sein en particulier de la zone euro, il n'y ait plus ce dumping fiscal et social qui crée des distorsions de concurrence entre les différents États et qui crée des difficultés tant pour les citoyens que pour notamment les finances et le travail des entreprises, des salariés. Alors il y a cette révision de la directive sur les travailleurs migrants qui est en discussion. Il y a toute une série de sujets dans ce cadre-là qui sont tout à fait importants, mais là aussi, pour la première fois, suite aux rencontres après les changements intervenus en France, des rencontres que l'on peut qualifier de positives, en tout cas qui marquent un premier vraiment intéressant.
Il me semble aussi qu'il y a effectivement des changements après la présidentielle française, mais il y a aussi des changements dans le contexte international, dans la mesure où il y a quand même, avec la crise ukrainienne, on sait bien par exemple que lorsqu'on ne survole pas l'Ukraine dans les déplacements internationaux en avion. Donc il y a quand même un risque qui est ressenti et qui est ressenti par les pays d'Europe de l'Est qui étaient les plus réticents à ce qu'on modifie, par exemple, la circulaire concernant les travailleurs détachés, parce qu'ils trouvaient dans le fond très bien à la fois de profiter d'exporter de la main-d'œuvre, de laisser des Polonais partir travailler à l'étranger et de ne pas avoir des charges sociales trop élevées. Donc je crois aussi que le contexte, un monsieur Trump aux États-Unis qui dit la défense européenne est dans le cadre de l'OTAN, vous savez, les États-Unis en ont assez de payer et il faudrait peut-être que vous songiez, vous, à vous défendre vous-même. Enfin, je crois que Le durcissement américain vis-à-vis de dans le cadre de l'OTAN a aussi obligé des Européens à voir s'ils étaient plutôt pour une Europe, voilà, on en profite si on peut et puis autrement on s'en fiche. Ça les a amenés à revoir leur situation, d'autant plus qu'à l'Est, M. Poutine n'est pas un partenaire pour rire. Alors je crois qu'il y a aussi à la fois la vision politique française, mais il y a aussi un contexte international qui fait que, au fait, si vous voulez exister, les Européens, il faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose. Et puis rappelons aussi que finalement, quand on parle de... En France, on est franco-français et on voudrait que si l'Europe se fait, elle se fasse selon le modèle français. Mais la France, c'est 65 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près la même chose que la Thaïlande. La Thaïlande toute seule, ça ne fait pas grand-chose sur le plan international. La France toute seule, non plus. Et là, peut-être que nous sommes en train d'en prendre conscience.
Tout à fait. Et cette dimension-là que vous soulignez est tout à fait importante parce qu'elle marque une nouvelle approche qui était, par rapport au passé, encore récent, face aux menaces tant du côté américain, parce qu'il faut quand même rappeler que M. Trump n'a pas hésité à dire qu'il n'était pas du tout certain de vouloir défendre des pays européens en cas de conflit, en cas d'attaque, alors que c'est tout à fait inscrit dans les traités
de l'OTAN.
Donc il a remis en cause non seulement, évidemment, l'approche financière. Là, il n'a peut-être pas tort de souligner qu'il y aurait davantage à faire par les Européens pour participer à une défense commune,
voilà,
à l'OTAN. Mais... Monsieur Trump a remis en cause les fondamentaux de l'OTAN. Et les pays de l'Est, en particulier ceux qui ont une frontière directe avec l'Union soviétique, enfin l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, oui, avec la Russie, vous voyez que parfois, avec la politique de Monsieur Trump, il y a des rapprochements linguistiques que l'on peut facilement faire éventuellement. Eh bien, tous ces pays qui ont rejoint l'Europe, en particulier la Pologne, mais n'oublions pas les pays baltes, qui était carrément sous emprise soviétique il n'y a pas si longtemps encore, tous se sont retournés vers l'Europe pour participer à l'OTAN, et maintenant, face à ce qu'ils voient, eh bien, ils se retournent directement vers l'Europe, alors qu'ils étaient assez opposés à tout effort de défense.
Voilà, je crois que là, il y a eu aussi un changement international.
Tout ce qui avait été fait au départ en matière de défense... au départ, d'abord, c'est la France qui était responsable, on peut aussi le rappeler, du fait que la défense européenne qui aurait dû être mise en place dans les années 50 ne l'a pas été faite. Alors maintenant, on revient vers des fondamentaux en se disant, mais oui, si on veut exister, eh bien, il faudrait peut-être devenir sérieux et se donner les moyens de se coordonner, notamment à travers les industries d'armement, et essayer de mettre en commun tous les efforts que l'on peut pour économiser, parce que là aussi, c'est intéressant d'analyser. Il y a eu des chiffrages qui ont été faits pour calculer combien coûte la défense européenne si elle est envisagée dans un ordre dispersé ou par rapport à des combinaisons, des fusions de programmes. Et donc là, il y aurait des milliards et des milliards d'euros d'économies à faire. Donc non seulement ce serait utile, mais ce serait en plus très intéressant sur le plan économique, pas uniquement défensif et militaire.
Eh bien, nous allons faire une pause et puis nous reprendrons un peu ces questions européennes. Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe. Et alors, il y a aussi une question qu'il faudra, à laquelle il faut que les Européens s'attellent. Et si possible, en faisant face ensemble, et je crois que là, d'ailleurs, ils ont pris la mesure des affaires et qu'ils gèrent la question ensemble, c'est la question de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Parce que finalement, on pensait que pour le Royaume-Uni, bon, eh bien, en Europe, ils sont un peu désunis, ça va être facile. Et finalement, il y a des dispositions, il me semble, qu'en Europe, on a décidé qu'il n'y aurait pas de démarche séparée de l'Italie, de l'Espagne, de la France et de chacun, mais qu'il y aurait un front uni. Donc ça, ça me paraît aussi une réalité européenne qui est intéressante, non ?
Oui, et puis elle a été confirmée, cette réalité, dernièrement. Il y a eu plusieurs réunions au niveau des États.
On a confié
à la Commission un mandat de négociation avec le Royaume-Uni. Donc la Commission européenne est chargée de voir avec les représentants du gouvernement du Royaume-Uni comment est-ce que l'on peut pratiquement opérer une sortie de ce Royaume-Uni de l'Union européenne et à quelles conditions, compte tenu des difficultés que l'on sait, parce que les économies au sein de l'Europe sont extrêmement intégrées, imbriquées les unes dans les autres, et notamment parce qu'il y a des règles juridiques qui organisent cet ensemble d'échanges entre tous les États. Donc on est dans un marché unique, comme dans un État comme en France. Il y a un marché unique en France du fait même des frontières internes à la France. Eh bien, au niveau européen, c'est la même chose. Et peu à peu, ce marché unique a été constitué, où il y a la libre circulation de toute une série d'hommes, de capitaux, de services, de commerce. Donc toutes ces facilités, les fameuses quatre libertés qui supportent ce marché unique, doivent être révisées à cette occasion. Alors d'ailleurs, disons aussi une chose, c'est que le Brexit, quand on en entend parler, parfois on croit que c'est déjà fait. Non, il n'y a rien qui est fait. Il faut d'abord négocier. Pour l'instant, le Royaume-Uni est toujours partie intégrante. Donc les effets
Ils ne décident plus,
ils sont en dehors, ils ne doivent plus décider pour l'avenir, tant que cela risque, parce qu'ils seront à côté. En revanche, il y a des négociations, notamment sur le fait que, en dehors des difficultés pratiques, notamment la libre circulation des personnes de chaque côté de la Manche, du côté de la frontière de l'Irlande du Nord et de l'Irlande, de la République d'Irlande. Le statut des Européens qui se trouvent au Royaume-Uni, comme le statut des ressortissants du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Et donc il y a toute une série d'aspects techniques très compliqués. Et pour l'instant, on sait que depuis le 22 mai, les États, en dehors du Royaume-Uni, ont confié à M. Michel Barnier, un Français, qui est un ancien ministre français par ailleurs d'autrefois, et ancien commissaire européen, il a été chargé officiellement de conduire cette négociation avec toute une équipe qui est autour de lui et qui est parée pour entamer dans les jours qui viennent négociations. Alors pour l'instant on attend en très grande transparence, parce que c'est convenu que les négociations il en sera rendu compte régulièrement tant au niveau des États que du Parlement européen et évidemment des médias. Alors ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, la balle est dans le camp du Royaume-Uni, dans la mesure
qui
où
Madame
Theresa May a donc demandé qu'il y ait un Parlement renouvelé pour lui donner en quelque sorte l'habilitation de négocier les mains libres plus qu'avec l'ancien Parlement britannique. Alors, mais pour l'instant, elle a une position extrêmement dure, dans la mesure où elle dit, ben, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh ben, il vaut mieux une séparation totale, pas d'accord du tout, qu'un accord qui serait boiteux. Alors, elle a cette position-là, qui est
à usage interne du Royaume-Uni,
mais qui sur son sur le plan direct des intérêts britanniques, ne serait certainement pas la meilleure des solutions pour le Royaume-Uni. Donc on verra bien comment tout ceci va s'enclencher, comment ceci va s'organiser, mais il est vrai, et ça c'est un point extrêmement positif, de constater que, comme vous l'avez souligné au départ, que les autres États restent unis parce qu'ils ont bien compris que leur avenir et leurs avantages étaient beaucoup plus protégés en restant dans l'Union européenne telle qu'elle existe, mais évidemment telle qu'elle devrait être réformée pour être plus efficace, mais en tout cas que c'était beaucoup mieux de rester ensemble, et tant pis si le Royaume-Uni veut partir, eh bien il partira avec les conséquences qui ont été d'ailleurs chiffrées par toute une série d'économistes, de spécialistes, et qui risquent de coûter extrêmement cher au Royaume-Uni, et d'ailleurs les milieux britanniques, notamment financiers et économiques, sont tout à fait inquiets des conséquences qui pourraient advenir dans les années qui viennent. En ce qui les concerne, évidemment.
Oui, c'est vrai. Et alors, tout à l'heure, vous évoquiez quand même les aspects juridiques. Mais en fait, on perçoit aussi que ce qui a été fait, qui est dans certains cas complexe, il suffit d'un gouvernement, d'une volonté politique, d'un changement, pour que les choses changent. Puisque, aussi bien, on voit quand même sur le plan international que le réalisme politique l'emporte et que, quelquefois, les traités sont déchirés comme des chiffons de papier. Donc, ne nous protégeons pas derrière des traités. Nous savons que ça existe, mais nous savons aussi que finalement, on peut en changer. Je crois que c'est important à préciser, c'est que tout n'est pas figé. Et ça, je crois que c'est une notion peut-être importante à redire. C'est que quelles que soient les structures qui ont été mises en place, on perçoit qu'il n'y a pas de loi économique, il y a des lois mathématiques à la rigueur, et un fonds 2, et encore, c'est à l'intérieur d'un système, mais que en fait, les choix et la liberté, ça permet toujours, il y a toujours cette marge de liberté. Je trouve que nous sommes dans une période où, de changement, et où on perçoit que les Européens veulent autre chose que... ça s'est traduit dans les élections françaises, mais ça se traduit aussi dans des opinions publiques des pays d'Europe. Parce qu'on voit la même chose en Italie.
Oui, tout à fait. On est vraiment à une période charnière où il y a beaucoup d'espoir qui sont derrière toutes les questions actuelles. Et effectivement, il y a de grands changements qui peuvent intervenir.
Et beaucoup de risques aussi.
Avec beaucoup de risques, comme toujours. Mais rappelons-nous que l'Europe a souvent été construite justement à travers les difficultés, rebonds et des crises. Et il y a eu ce que l'on sait par le passé qui a amené là où nous sommes et qui n'est pas du tout un résultat négatif. D'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de souligner qu'il y a près de 80% de l'opinion française qui est favorable à l'Union européenne, d'après des sondages récents, je crois que c'est autour de 77%, qui voient que l'appartenance de la France à l'Union européenne est, malgré tout ce que l'on a dit, quelque chose de positif.
Alors, il y a aussi peut-être à rappeler que les problèmes sont devant nous et qu'il appartient aux différents pays de les résoudre, mais le problème des migrants, on ne peut pas laisser la question de Calais et de cet abcès de fixation. Alors c'est vrai qu'on a vidé Calais, mais il y a toujours ce passage, enfin c'est ces gens qui veulent aller en Grande-Bretagne et qui sont coincés, puisque finalement ils ne peuvent pas y aller à la nage. Et aussi de l'autre côté, la question de la frontière avec les pays d'Afrique. On ne peut pas laisser non plus l'Italie seule gérer la question de la Méditerranée. On ne peut pas non plus laisser la Grèce seule gérer cet endettement qui, finalement, est pour une part une question européenne. Les Jeux olympiques à Athènes ont entraîné la Grèce à faire des dépenses somptuaires. Et puis, finalement, les pays d'Europe ont profité de cette gloire. Enfin, les Jeux olympiques, c'est quand même d'origine grecque. Donc là, il me semble qu'il y a quand même des problèmes qu'on laisse gentiment c'est la poussière sous le tapis, hein. On laisse la France gérer Calais, on laisse l'Italie gérer la Méditerranée, on laisse la Grèce gérer son endettement, alors que il y a bien là de vraies questions européennes dont il faut se saisir.
Jusqu'à présent, là aussi, on est devant un tournant, semble-t-il. Jusqu'à présent, ça a été le chacun pour soi. Alors, on a accusé l'Europe de ne rien faire. Si, l'Europe avait fait des propositions, et ce sont les États qui se sont cachés derrière un espèce d'un égoïsme national en disant « c'est pas mon problème, c'est le problème de l'Italie, c'est le problème de la Grèce, c'est le problème de l'Espagne, voire c'est le problème, etc. etc. »
Toujours l'autre.
C'est toujours l'autre. Et puis, il y a eu des propositions qui ont été mises sur la table pour essayer d'améliorer le système actuel.
Et alors, des solutions, et parce des que solutions, Frontex, quand
fait.
Même, ça
a avancé. Alors donc, maintenant, peu à peu, on met en place et les États reconnaissent qu'il y a quand même un minimum de solidarité qui est nécessaire. Et donc, il y a eu des décisions qui ont été prises ces derniers temps, pour le renforcement notamment de la police aux frontières, de la manière dont il faut enregistrer et trier, entre guillemets, les flux migratoires. Donc il y a sur la table toute une série de propositions, mais aussi des choses qui ont été faites, qui sont déjà en place. Alors évidemment, à chaque fois qu'il y a une période favorable au niveau climatique, il y a des passages dramatiques à travers la Méditerranée où les informations nous le montrent chaque
voilà,
fois.
Alors, ne pleurons pas sur les migrants
des milliers
qui se noient
de migrants
en même temps,
qui sont,
si
mais,
on est
voilà, tout à fait. Mais
incapable d'accueillir.
Le problème de fond est le même. Il faut faire preuve de solidarité. Et il y a quand même une frontière commune à nos pays, qui est la frontière extérieure. Eh bien, il faut la défendre en commun. Donc, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de solution commune, eh bien, ça ne marchera pas.
Alors là, nous évoquons les questions générales. Moi, je voudrais, pour finir l'émission d'aujourd'hui, que vous évoquiez non pas la fête européenne qui va s'effectuer à Luisant, mais quand même, parlons-en un peu.
Oui, eh bien, en tant que Luisantais...
Même si c'est vous qui en êtes l'acteur essentiel.
Enfin non, je ne suis pas l'acteur essentiel, mais enfin
un
non.
Un témoin quand même.
Il se trouve que... le 60e anniversaire du traité de Rome, on en a parlé ici à cette antenne, il a été commémoré le 25 mars dernier, puisque c'était le 25 mars 1957 que ce traité a été signé à Rome. Et c'est le traité de base de marché commun qui a amené peu à peu, à travers différents traités dans l'histoire, à l'Union européenne. Or, il se trouve que ce traité a été ratifié par la France la même année, au mois de juillet, le 9 juillet 1957 exactement. Et il se trouve là aussi quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que le chef du gouvernement à l'époque qui a fait ratifier ce traité s'appelait Maurice Bourgès Monoury.
C'était votre oncle.
Et c'était mon oncle. Et il était Luisantais. Il est né à Luisant, enterré à Luisant. Et la ville de Luisant veut commémorer ce fait en soulignant que finalement c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu du grand public, que localement il y a un ancien chef de gouvernement qui a eu un grand rôle européen et qu'il fallait le souligner. Donc le week-end des 8 et 9 juillet 2017, donc les prochains, le week-end du mois de juillet, 8 et 9 juillet prochain, la ville de Luisant, en association avec le mouvement européen, en association également avec l'association eurélienne d'histoire du XXe siècle, en association avec toute une série d'autres associations et organismes, organise un week-end européen, une fête européenne, et un programme a été mis sur la table de festivités et de rencontres et de débats. Et donc, on invite tous nos auditeurs qui sont intéressés par cette opération, par cet événement, à y participer, donc les week-ends des 8 et 9 juillet prochains.
Et donc, on en parlera aussi sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe. Voilà. Chers auditeurs, eh bien, notre émission s'achève. Je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir. Et n'oubliez pas d'aller voir les histoires européennes sur le site de Radio Grand Ciel.